Jules Verne, Maître du Monde. Chapitre 16. Robur le Conquérant. Une taille moyenne, avec carrure géométrique, ce que serait un trapèze régulier dont le plus grand côté est formé par la ligne des épaules. Sur cette ligne, rattachée par un cou robuste, une énorme tête sphéroïdale. Des yeux que la moindre émotion devait porter à l'incandescence, et au-dessus, en permanente contraction, le muscle sourcillé, signe d'extrême énergie. Des cheveux courts un peu crépus, à reflets métalliques, comme eût été un toupet de paille de fer, large poitrine qui s'élevait et s'abaissait avec des mouvements de soufflet de forge, des bras, des mains, des jambes dignes du tronc, pas de moustache, pas de favori. Une large barbiche à l'américaine, qui laissait voir les attaches de la mâchoire, et dont les massétaires devaient posséder une puissance formidable. Tel était le portrait de l'homme extraordinaire que reproduisirent tous les journaux de l'Union, à la date du 13 juin 1800. Le lendemain du jour où ce personnage fit son apparition sensationnelle à la séance du Walden Institute de Philadelphie. Et c'était ce Robur le Conquérant qui venait de se révéler à moi, en me jetant son nom retentissant comme une menace et dans l'enceinte même du Great Eyrie. Il est nécessaire de rappeler succinctement les faits qui attirèrent sur le dit Robur l'attention de tout le pays. D'eux découlent les conséquences de cette prodigieuse aventure dont le dénouement était en dehors des prévisions humaines. Dans la soirée du 12 juin à Philadelphie, se tenait une assemblée du Walden Institute, président Oncle Prudent, l'un des personnages les plus importants de ce chef-lieu de l'État de Pennsylvanie, secrétaire Phil Evans, non moins important personnage de la même ville. On discutait la grande question des ballons dirigeables. Par les soins du conseil d'administration, un aérostat cubant 40 000 mètres cubes, le Go Ahead, venait d'être construit. Son déplacement horizontal devait s'effectuer sous l'action d'une dynamo, à la fois légère et puissante, dont on attendait les meilleurs résultats, et qui actionnerait une hélice. Mais où serait établie cette hélice? À l'arrière de la nacelle, suivant les uns, ou à l'avant, suivant les autres? Cette question ne se trouvait pas encore réglée, et ce jour-là, elle mettait aux prises les avantistes et les arriéristes. La discussion devint même si vive que certains membres du Walden Institute allaient en venir aux mains, lorsqu'au plus fort de la mêlée, un étranger demanda à être introduit dans la salle des séances. Il le fut sous le nom de Robur. Après avoir réclamé la parole, il l'obtint au milieu d'un silence général. Prenant alors franchement position dans le débat relatif au ballon dirigeable, il déclara que puisque l'homme était devenu le maître des mers avec le navire mu par la voile, par la roue ou par l'hélice, il ne deviendrait le maître des espaces atmosphériques que par l'emploi d'appareils plus lourds que l'air, attendu qu'il faut être plus lourd pour s'y mouvoir en toute liberté. C'était l'éternelle lutte entre l'aérostation et l'aviation. Dans cette séance où dominaient les partisans du plus léger que l'air, elle reprit avec une telle intensité que Robur, auquel d'ironiques rivaux donnèrent le nom de conquérant, dut quitter la salle. Mais, après la disparition de ce singulier personnage, quelques heures plus tard, le président et le secrétaire du Walden Institute furent l'objet d'un audacieux enlèvement. Au moment où ils traversaient Fairmount Park, accompagnés du valet Fricolin, plusieurs hommes se jetèrent sur eux, les bâillonnèrent, les ligotèrent. Puis, malgré leur résistance, ils les emportèrent à travers les allées désertes et les introduisirent dans un appareil placé au milieu d'une clairière. Le jour venu, prisonnier dans l'aviateur de Robur, il planait au milieu des airs au-dessus d'un pays qu'il cherchait vainement à reconnaître. Oncle Prudent et Phil Evans allaient constater par eux-mêmes que l'orateur de la veille ne les avait pas trompés, qu'il possédait une machine aérienne fondée sur le principe du plus lourd que l'air, laquelle, par bonne ou mauvaise chance, ils le verraient bien, leur réserverait un extraordinaire voyage. Cet appareil, imaginé et construit par l'ingénieur Robur, reposait sur le double fonctionnement de l'hélice, qui, en tournant, progresse dans la direction de son axe. Si cet axe est vertical, elle se déplace verticalement. S'il est horizontal, elle se déplace horizontalement. Tel l'hélicoptère, qui s'élève parce qu'il frappe obliquement l'air comme s'il se mouvait sur un plan incliné. Cet aviateur, l'Albatros, se composait d'un bâti long de 30 mètres, muni de deux propulseurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, et d'un jeu de 37 hélices suspensives d'axe vertical, soit 15 de chaque côté du bâti, et 7 plus élevées au milieu de l'appareil. Cela constituait un ensemble de 37 mâts, gréés de branches au lieu de voiles, et auxquels les machines, installées dans les roufs de la plateforme, imprimaient une rotation prodigieuse. Quant à la force employée pour soutenir et mouvoir cet aviateur, elle n'était fournie ni par la vapeur d'eau, ou tout autre liquide, ni par l'air comprimé, ou autre gaz élastique. Ce n'était pas non plus au mélange explosif que Robur l'avait demandé, mais bien à cet agent qui se prête à tant d'usages, à l'électricité. Maintenant, comment et où l'inventeur puisait-il cette électricité, dont il chargeait ses piles et ses accumulateurs? Très probablement, on n'a jamais connu son secret, il la tirait de l'air ambiant, toujours plus ou moins chargé de fluide, ainsi d'ailleurs que la tirait de l'eau ambiante ce célèbre capitaine Nemo, lorsqu'il lançait son Nautilus à travers les profondeurs de l'océan. Et ce secret, il faut le dire, ni Oncle Prudent ni Phil Evans ne devaient le découvrir pendant toute la durée d'un voyage aérien qui allait promener l'Albatros au-dessus du sphéroïde terrestre. Le personnel aux ordres de l'ingénieur Robur comprenait un contremaître nommé John Turner, 3 mécaniciens, 2 aides et un cuisinier, en tout 8 hommes qui suffisaient au service du bord. Et ainsi que le dit Robur aux 2 passagers, ses compagnons malgré eux, « Avec mon aviateur, je suis le maître de cette 7e partie du monde, plus vaste que l'Australie, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, cette Icarie aérienne, cet immense domaine de l'atmosphère que des milliers d'Icariens parcourront dans un prochain avenir. » Alors commença cette aventureuse campagne à bord de l'Albatros, et pour son début, au-dessus des vastes territoires du Nord-Amérique. En vain, Oncle Prudent et Phil Evans firent-ils entendre des réclamations bien justifiées. Elles furent repoussées par Robur, en vertu du droit du plus fort. Ils durent se résigner, ou plutôt céder devant ce droit. L'Albatros, courant vers l'ouest, dépassa l'énorme chaîne des montagnes rocheuses, les plaines californiennes. Puis, laissant en arrière San Francisco, il traversa la zone septentrionale du Pacifique jusqu'à la presqu'île du Kamtchatka. Sous les yeux des passagers de l'aviateur s'étendirent alors les régions du Céleste Empire et Pékin, la capitale chinoise, fut aperçue dans sa quadruple enceinte. Enlevé par ses hélices suspensives, l'aviateur monta à de plus hautes altitudes, dépassant les cimes de l'Himalaya, ses sommets blancs de neige et ses glaciers étincelants. Cette route vers l'ouest, il n'en dévia pas. Après avoir battu l'air au-dessus de la Perse et de la mer Caspienne, il franchit la frontière européenne, puis les steppes moscovites, en suivant la vallée de la Volga. Aperçu de Moscou, aperçu de Pétersbourg, signalé par les habitants de la Finlande, par des pêcheurs de la Baltique. Abordant la Suède au parallèle de Stockholm et la Norvège à la latitude de Christiana, il redescendit vers le sud, plana à 1000 mètres au-dessus de la France, et s'abaissant sur Paris, il domina la grande capitale d'une centaine de pieds, tandis que ses fanaux projetaient d'éblouissantes gerbes de lumière. Enfin défilèrent l'Italie, avec Florence, Rome et Naples, la Méditerranée, qui fut traversée d'un vol oblique. L'aéronef avait atteint les côtes de l'immense Afrique, qu'il parcourut depuis le cap Spartel du Maroc jusqu'à l'Égypte, au-dessus de l'Algérie, de la Tunisie, de la Tripolitaine. Revenant vers Tombouctou, la reine du Soudan, il s'aventura à la surface de l'Atlantique. Et toujours il marchait en direction du sud-ouest, et rien ne put l'arrêter au-dessus de cette immense plaine liquide. Rien. Pas même les orages qui éclataient avec une extrême violence. Pas même une de ces formidables trombes qui l'enveloppa de tourbillons, et d'où, grâce au sang-froid et à l'adresse de son pilote, il put se dégager en la brisant à coups de canon. Lorsque la Terre réapparut, ce fut à l'entrée du détroit de Magellan. L'Albatros le traversa du nord au sud pour l'abandonner à l'extrémité du Cap Horn et s'élancer au-dessus des parages méridionaux de l'océan Pacifique. Alors, bravant les régions désolées de la mer Antarctique, après avoir lutté contre un cyclone dont il parvint à gagner le centre relativement calme, Robur se promena sur ces contrées presque inconnues de la terre de Graham. Au milieu des magnificences d'une aurore boréale, il se balança pendant quelques heures au-dessus du pôle. Repris par l'ouragan, entraîné vers l'Érébus, qui vomissait ses flammes volcaniques, ce fut miracle s'il put leur échapper. Enfin, dès la fin de ce mois de juillet, après être remonté vers le Pacifique, il s'arrêta à portée d'une île de l'océan Indien. L'ancre, lancée au dehors, mordit aux rochers du littoral, et l'Albatros, pour la première fois depuis son départ, demeura immobile à 150 pieds du sol, maintenue par ses hélices suspensives. Cette île, ainsi que Oncle Prudent et son compagnon allaient la prendre, était l'île Chatham, à 15 degrés dans l'est de la Nouvelle-Zélande. Si l'aéronef venait d'y prendre contact, c'est que ses propulseurs avariés dans le dernier ouragan exigeaient des réparations sans lesquelles il n'aurait pu regagner l'île X, distante encore de 2800 milles, île inconnue de l'océan Pacifique où avait été construit l'Albatros. Oncle Prudent et Phil Evans comprenaient bien que, réparation faite, l'aviateur reprendrait ses interminables voyages. Aussi, alors qu'il était attaché au sol, l'occasion leur parut-elle favorable pour tenter une évasion. Le câble de l'ancre qui retenait l'Albatros mesurait au plus 150 pieds. En s'y laissant glisser, les deux passagers et leur valet fricolin atteindraient la terre sans trop de peine. Et si l'évasion s'effectuait de nuit, ils ne risquaient point d'être aperçus. Il est vrai, au retour de l'aube, la fuite sera découverte. Les fugitifs ne pourraient s'échapper de l'île Chatham, et ils seraient repris. Voici alors l'audacieux parti auquel ils s'arrêtèrent. Faire sauter l'appareil au moyen d'une cartouche de dynamite, prise aux munitions du bord, casser les ailes au puissant aviateur, le détruire avec son inventeur et son équipage. Avant que cette cartouche eût fait explosion, ils auraient le temps de fuir par le câble et assisteraient à la chute de l'Albatros, dont il ne resterait plus pièce. Ce qu'ils avaient décidé de faire, ils le firent. La cartouche allumée, dès le soir venu, tous trois, sans avoir été vus, glissèrent jusqu'au sol. Mais à ce moment, leur évasion fut découverte. Des coups de fusil partis de la plateforme furent tirés sans les atteindre. Alors Oncle Prudent, se jetant sur le câble de l'ancre, le trancha. Et l'Albatros, ne disposant plus de ses hélices propulsives, fut emporté par le vent. Et bientôt brisé par l'explosion, il s'abîma dans les flots de l'océan Pacifique. On ne l'a point oublié, c'était dans la nuit du 12 au 13 juin que Oncle Prudent, Phil Evans et Fricolin, au sortir du Walden Institute, avaient disparu. Depuis lors, aucune nouvelle d'eux. Impossible de former une hypothèse à ce sujet. Existait-il une corrélation quelconque entre cette extraordinaire disparition et l'incident Robur pendant la mémorable séance? Cette pensée ne vint et n'aurait pu venir à personne. Mais les collègues des deux honorables s'inquiétèrent de ne plus les revoir. On fit des recherches. La police s'en mêla. Des télégrammes furent lancés dans toutes les directions, à travers le nouveau comme l'ancien continent. Résultat absolument nul. Même une prime de 5 000 $, promise à tout citoyen qui apporterait quelque information relative aux disparus, resta dans la caisse du Walden Institute. Telle était la situation. L'émotion, particulièrement aux États-Unis, fut extrême, et j'en ai conservé un vif souvenir. Or, le 20 septembre, une nouvelle, qui courut d'abord à Philadelphie, se propagea immédiatement au dehors. Oncle Prudent et Phil Evans avaient réintégré dans l'après-midi le domicile du président du Walden Institute. Le soir même, convoqué en séance, les membres reçurent avec enthousiasme leurs deux collègues. Aux questions qui leur furent posées, ceux-ci répondirent avec la plus grande réserve, ou pour mieux dire, ils ne répondirent pas. Or, voici ce qui fut révélé plus tard. Après l'évasion et la disparition de l'Albatros, Oncle Prudent et Phil Evans s'occupèrent d'assurer leur existence, en attendant l'occasion de quitter l'île Chatham, dès qu'elle se présenterait. Sur la côte occidentale, ils rencontrèrent une tribu d'indigènes qui ne leur fit point mauvais accueil. Mais cette île est peu fréquentée, les navires y relâchent rarement. Il fallut donc s'armer de patience, et ce fut seulement 5 semaines après que ces naufragés de l'air purent s'embarquer pour l'Amérique. Or, dès leur retour, sait-on quelle fut l'unique préoccupation d'Oncle Prudent et de Phil Evans ? Tout simplement de reprendre le travail interrompu, d'achever la construction du ballon Go Ahead et de s'élancer de nouveau à travers les hautes zones de l'atmosphère qu'ils venaient de parcourir, et dans quelles conditions à bord de l'aéronef. S'ils ne l'eussent pas fait, ils n'auraient pas été de vrais Américains. Le 20 avril de l'année suivante, l'aérostat était prêt à partir sous la direction de Harry W. Tinder, le célèbre aéronaute, que devait accompagner le président et le secrétaire du Weldon Institute. Je dois ajouter que depuis leur retour, personne n'avait entendu parler de Robur, pas plus que s'il n'eût jamais existé. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas toute raison de croire que son aventureuse carrière s'était terminée après l'explosion de l'Albatros, englouti dans les profondeurs du Pacifique. Le jour de l'ascension arriva. J'étais là, avec des milliers de spectateurs, dans le parc de Fairmont. Le Go Ahead allait s'élever aux dernières hauteurs grâce à son énorme volume. Il va sans dire que la question des avantistes et des arriéristes avait été résolue d'une façon aussi simple que logique. Une hélice à l'avant de la nacelle, une hélice à l'arrière. Que l'électricité devait actionner avec une puissance supérieure à tout ce qui s'était fait jusqu'à ce jour. Du reste, temps propice, s'il en fut, ciel sans nuages et sans un souffle de vent. À 11h20, un coup de canon annonça à toute cette foule que le Go Ahead était prêt à partir. « Lâchez tout !» Ce cri sacramentel fut jeté d'une voix forte par Oncle Prudent lui-même. L'aérostat s'éleva majestueusement et lentement dans les airs. Puis commencèrent les épreuves de déplacement, suivant l'horizontale, opération qui fut couronnée du plus éclatant succès. Tout à coup, un cri retentit, un cri que 100 000 bouches répétèrent. Dans le nord-ouest apparaissait un corps mobile qui s'approchait avec une excessive vitesse. C'était le même appareil qui, l'année précédente, après avoir enlevé les deux collègues du Weldon Institute, les avait promenés au-dessus de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des deux Amériques. L'Albatros ! L'Albatros ! Oui, c'était lui. Et nul doute que son inventeur Robur ne fût à bord. Robur le conquérant. Et quelle dut être la stupéfaction d'Oncle Prudent et de Phil Evans à revoir cet Albatros qu'il croyait détruit. Il l'avait été, en effet, par l'explosion, et ses débris étaient tombés dans le Pacifique, avec l'ingénieur et tout son personnel. Mais presque aussitôt recueillis par un navire, ils furent construits en Australie, d'où ils ne tardèrent pas à regagner l'île X. Robur n'eut plus qu'une pensée, se venger. Aussi, pour assurer sa vengeance, construisit-il un second aéronef, plus perfectionné peut-être. Puis, ayant appris que le président et le secrétaire du Weldon Institute, ses anciens passagers, s'apprêtaient à reprendre les expériences du Go Ahead, il avait fait route vers les États-Unis, et il était là, au jour dit, à l'heure dite. Est-ce donc que, gigantesque oiseau de proie, il va fondre sur le Go Ahead ? En même temps qu'il se vengera, est-ce que Robur veut démontrer publiquement la supériorité de l'aéronef sur les aérostats et autres appareils plus légers que l'air? Dans leur nacelle, Oncle Prudent et Phil Evans se rendirent compte du danger qui les menaçait, du sort qui les attendait. Il fallait fuir, non pas d'une fuite horizontale, dans laquelle le Go Ahead serait facilement devancé, mais en gagnant les hautes zones, où il avait chance peut-être d'échapper à son terrible adversaire. Le Go-Ahead s'éleva donc jusqu'à une hauteur de 5 000 mètres. L'Albatros le suivit dans son mouvement ascensionnel. Et ainsi que le dirent les journaux, dont ma mémoire garde l'exact récit, il évoluait sur ses flancs. Il lancerait de cercles dont le rayon diminuait à chaque tour. Allait-il l'anéantir d'un bond en crevant sa fragile enveloppe? Le Go-Ahead, se débarrassant d'une partie de son lest, monta de 1 000 mètres encore. L'Albatros, imprimant à ses hélices leur maximum de rotation, le suivit jusque-là. Soudain, une explosion se produisit. L'enveloppe du ballon venait de se déchirer sous la pression du gaz, trop dilatée à cette altitude. Et à demi dégonflé, il tombait rapidement. Et alors, voici que l'Albatros se précipite sous lui, non pour l'achever, mais pour lui porter secours. Oui, Robure, oubliant sa vengeance, a rejoint le Go-Ahead et ses hommes, enlevant Oncle Prudent, Phil Evans, l'aéronaute, les firent passer sur la plateforme de l'aéronef. Puis le ballon, presque entièrement vide, retomba, énorme loc, sur les arbres de Fairmount Park. Le public haletait d'émotion, de frayeur. Et maintenant que le président et le secrétaire du Weldon Institute étaient redevenus les prisonniers de l'ingénieur Robure, que se passerait-il? Robure voulait-il les entraîner avec lui dans l'espace, et pour jamais cette fois? On fut presque aussitôt fixé à ce sujet. Après avoir stationné quelques minutes à la hauteur de 5 à 600 mètres, l'Albatros commença à redescendre, comme pour atterrir sur la clairière de Fairmount Park. Et pourtant, s'il venait à porter, la foule affolée, se retiendrait-elle assez pour ne pas se jeter sur l'aéronef, et laisserait-elle s'échapper cette occasion de s'emparer de Robure le conquérant? L'Albatros descendait toujours, et lorsqu'il ne fut plus qu'à 5 ou 6 pieds du sol, ses hélices suspensives fonctionnant toujours, il s'arrêta. Il y eut comme un mouvement général pour envahir la clairière. Alors la voix de Robure se fit entendre. Et voici textuellement les paroles qu'il prononça. Citoyens des États-Unis, le président et le secrétaire du Weldon Institute sont de nouveau en mon pouvoir. En les gardant, je ne ferai qu'user de mon droit de représailles. Mais, à la passion qu'excitent les succès de l'Albatros, j'ai compris que l'état des esprits n'était pas prêt pour l'importante révolution que la conquête de l'air doit amener un jour. Oncle Prudent, Phil Evans, vous êtes libre. Le président, le secrétaire du Weldon Institute, l'aéronaute Tinder, eurent en un instant sauté à terre, et l'aéronef remonta d'une 30aine de pieds au-dessus du sol, hors de toute atteinte. Robure continua en ces termes. Citoyens des États-Unis, mon expérience est faite, mais il ne faut arriver qu'à son heure. C'est trop tôt encore pour avoir raison des intérêts contradictoires et divisés. Je pars donc, et j'emporte mon secret avec moi. Il ne sera pas perdu pour l'humanité, et lui appartiendra le jour où elle sera assez instruite pour n'en jamais abuser. Salut, citoyens des États-Unis. Puis l'Albatros, enlevé par ses hélices, poussé par ses propulseurs, disparut dans la direction de l'est, au milieu des hurrahs de la foule. J'ai tenu à rapporter cette dernière scène en détail, et pour la raison qu'elle fait connaître l'état d'esprit de cet étrange personnage. Il ne me paraissait pas qu'il fût alors animé de sentiments hostiles contre l'humanité. Il se contentait de réserver l'avenir. Mais assurément, on sentait dans son attitude l'inébranlable confiance qu'il avait en son génie, l'immense orgueil que lui inspirait sa surhumaine puissance. On ne s'étonnera donc pas que ses sentiments se fussent peu à peu aggravés au point qu'il prétendait s'asservir le monde entier, ainsi que le marquait sa dernière lettre et ses menaces très significatives. Fallait-il donc admettre que, avec le temps, sa surexcitation mentale s'était accrue dans une mesure effrayante, qu'elle risquait de l'entraîner aux pires excès? Quant à ce qui s'était passé depuis le départ de l'Albatros, ce que je savais me permettait de le reconstituer aisément. Il n'avait pas suffi à ce prodigieux inventeur de créer une machine volante, si perfectionnée qu'elle fût. La pensée lui était venue de construire un appareil apte à se mouvoir sur Terre, sur et sous les eaux, comme à travers l'espace. Et probablement dans le chantier de l'île X, un personnel de choix, qui garda le secret, parvint à établir de toutes pièces l'appareil à triple transformation. Puis le second albatros fut détruit. Et sans doute dans cette enceinte du Great Eyrie, infranchissable à tout autre. L'épouvante fit alors son apparition sur les routes des États-Unis, dans les mers voisines, à travers les zones aériennes de l'Amérique. Et l'on sait en quelles conditions, après avoir été vainement poursuivie à la surface du lac Erie, elle s'échappa par la voie des airs, tandis que j'étais prisonnier à son bord.